Chapitre 35. Une lumière pour s'éclairer.
Bien que beaucoup aient souhaité que Rithiru soit bâti en Alethela, il ne pouvait manifestement pas en être ainsi. Ainsi donc, l'on demanda qu'elle soit placée à l'ouest, à l'emplacement le plus proche de l'honneur. Peut-être la plus ancienne source originale survivante mentionnant la ville, citation reprise dans le Vavibrar, ligne 1804. Que ne donnerais-je pas pour pouvoir traduire le chant de l'aube ?
La force du mur de la tempête faillit lui faire perdre connaissance, mais la froideur soudaine le garda lucide sous l'effet du choc. L'espace d'un instant, Kaladin n'éprouva rien d'autre que ce froid. Le déferlement prolongé d'eau l'appuyait contre le mur de la baraque. Des pierres et des fragments de branches s'écrasaient autour de lui contre la pierre. Il était déjà trop engourdi pour déterminer combien lui entaillait ou lui meurtrissait la peau. Il subit la vague, hébété, fermant très fort les yeux et retenant son souffle. Puis, le mur de la tempête poursuivit sa course. La bourrasque suivante arriva latéralement. L'air tournoyait à présent depuis toutes les directions. Le vent le projetait sur le côté. Son dos raclant la pierre et dans les airs. Le vent se stabilisa, soufflant de nouveau depuis l'est. Kaladin resta suspendu dans le noir et ses pieds tirèrent sur la corde. Pris de panique, il s'aperçut qu'il flottait à présent au vent comme un cerf-volant, attaché à l'anneau serti dans le toit en pente de la baraque. Seule cette corde l'empêchait de se faire emporter avec les autres débris, charrié à travers tout Rochard à l'avant de la tempête. L'espace de ces quelques battements de cœur, il se retrouva incapable de réfléchir. Il ne ressentait plus que la panique et le froid. L'une bouillonnant dans sa poitrine, l'autre cherchant à le geler en pénétrant depuis sa peau. Il hurla, s'agrippant à sa sphère unique comme à une corde de sécurité. Ce hurlement était une erreur, car il laissa ce froid s'engouffrer dans sa bouche, comme un esprit lui plongeant le bras dans la gorge. Ce vent était pareil à un maelstrom, chaotique, soufflant dans différentes directions. Une bourrasque le secoua puis s'éloigna, et il tomba sur le toit de la baraque avec un bruit sourd. Presque aussitôt, les vents redoutables tentèrent de nouveau de le soulever, agressant sa peau à coups de vagues d'eau glacée. Le tonnerre gronda, battement de cœur de la bête qui l'avait englouti. Des éclairs fendirent les ténèbres tels des dents blanches dans la nuit. Le vent était si bruyant qu'il noyait presque le tonnerre. Il hurlait et gémissait.
« Attrape-le-toi, Kaladin !» La voix de Syl, si douce, si fluette, comment pouvait-il même l'entendre ?
Engourdi, il s'aperçut qu'il était étendu à plat ventre sur le toit en pente, lequel n'était pas assez incliné pour qu'il se fasse aussitôt jeter à terre, et le vent le repoussait globalement vers l'arrière. Il obéit à Syl et saisit le bord du toit entre ses doigts gelés et glissants. Puis, il resta étendu face contre terre, tête calée entre ses bras. Il tenait toujours sa sphère en main, appuyée contre le toit de pierre. Ses doigts se mirent à glisser. Le vent soufflait violemment, cherchant à le repousser vers l'ouest. S'il lâchait prise, il se ferait de nouveau balloter dans les airs. Sa corde n'était pas assez longue pour qu'il atteigne l'autre côté du toit en pente douce, où il serait à l'abri. Un rocher heurta le toit près de lui. Il n'entendit pas son impact, ni ne le vit dans l'obscurité de la tempête, mais il sentit le bâtiment vibrer. Le rocher se mit à rouler et alla s'effondrer à terre. La tempête entière ne possédait pas une force si grande, mais des bourrasques occasionnelles pouvaient se lever et jeter de gros objets à des centaines de mètres. Ses doigts glissèrent encore davantage.
« L'anneau !» chuchota Syl.
« L'anneau !» La corde attachait ses jambes à un anneau d'acier sur le côté du toit, derrière lui. Kaladin lâcha prise, puis saisit l'anneau tandis qu'il se retrouvait soufflé en arrière. Il s'y accrocha. La corde tombait jusqu'à ses chevilles et faisait à peu près la longueur de son corps. Il envisagea un moment de détacher les cordes, mais n'osa pas lâcher l'anneau. Il y resta accroché comme un fanion claquant au vent, tenant l'anneau à deux mains, abritant la sphère dans l'une d'entre elles, appuyée contre l'acier. C'était une lutte de chaque instant. Le vent l'attirait vers la gauche, puis le projetait vers la droite. Il n'avait plus aucune notion de durée. Le temps ne signifiait rien dans ce lieu de tumulte et de fureur. Son esprit engourdi et maltraité commençait à croire qu'il se trouvait dans un cauchemar. Un rêve terrible à l'intérieur de sa tête, rempli de vents noirs et vivants. Des hurlements dans l'air, blancs et aveuglants, les éclairs révélant un monde terrible et tordu de terreur et de chaos. Les bâtiments même semblaient repoussés par le souffle, le monde entier de travers, tordu par la terrible puissance de la tempête. Lors de ces brefs moments de lumière où il osait regarder, il lui sembla voir Syl debout devant lui, son visage tourné vers le vent, ses mains minuscules tendues vers l'avant, comme si elle tentait de retenir la tempête et de séparer les vents de la même manière qu'une pierre divise les eaux d'un courant rapide. La froideur de l'eau de pluie engourdissait ses éraflures et ecchymoses, mais également ses doigts. Il ne les sentit pas glisser. Sans crier gare, il se retrouva de nouveau ballotté dans les airs, projeté contre le toit de la baraque. Il le heurta violemment. Des étincelles apparurent devant ses yeux, puis fusionnèrent, et les ténèbres leur succédèrent. Pas l'inconscience, mais les ténèbres. Kaladin cligna des yeux. Tout était silencieux. L'orage s'était calmé, et tout était d'un noir pur. « Je suis mort », se dit-il aussitôt. Mais pourquoi percevait-il le toit de pierre humide en dessous de lui ? Il secoua la tête, et de l'eau de pluie coula le long de son visage. Il n'y avait ni éclair, ni vent, ni pluie. Il régnait un silence contre nature. Il se leva en titubant et parvint à se mettre debout sur le toit en pente douce. La pierre était glissante sous ses orteils. Il ne sentait pas ses blessures. La douleur n'était pas là, tout simplement. Il ouvrit la bouche pour appeler dans le noir, mais hésita. Ce silence ne devait pas être rompu. L'air lui-même semblait peser moins, tout comme lui. Il avait presque la sensation de pouvoir s'éloigner en flottant. Dans ces ténèbres, un immense visage apparut juste devant le sien. Un visage de noirceur, mais dont les contours se détachaient faiblement dans le noir. Il était large, de la largeur d'une tête de cumulonimbus, et s'étendait loin des deux côtés, mais il était curieusement toujours visible aux yeux de Kaladin, inhumain, souriant. Kaladin sentit un grand froid, un fourmillement de glace, filer le long de sa colonne vertébrale et à travers son corps tout entier. La sphère s'anima soudain dans sa main, brûlant d'un éclat de saphir. Elle éclaira le toit de pierre en dessous de lui et fit resplendir son poing d'une flamme bleue. Sa chemise était en lambeaux, sa peau lacérée. Stupéfait, il baissa les yeux, vit sa chemise en lambeaux et sa peau lacérée, puis les releva vers ce visage. Il avait disparu. Ne restaient que les ténèbres. Un éclair fendit le ciel, et les douleurs de Kaladin réapparurent. Le souffle coupé, il tomba à genoux devant la pluie et le vent. Il glissa, et son visage alla heurter le toit. De quoi s'était-il agi ? D'une vision ? D'une illusion ? Sa force le désertait, et ses pensées s'embrouillaient de nouveau. Les vents n'étaient plus si forts à présent, mais la pluie restait glaciale. Léthargique, confus, presque terrassé par la douleur, il leva la main sur le côté et regarda la sphère. Elle brillait. Elle était couverte de sang, et elle brillait. Il avait atrocement mal, et sa force l'avait déserté. Fermant les yeux, il se sentit enveloppé d'une autre noirceur, celle de l'inconscience. Rock fut le premier à la porte quand la tempête majeure s'apaisa. Teft le suivit plus lentement, gémissant tout bas. Ses genoux lui faisaient mal. Ses genoux lui faisaient toujours mal en présence des tempêtes. Son grand-père s'en plaignait dans sa vieillesse, et Teft le traitait alors de dingue. Désormais, il ressentait la même chose. « Damnation des foudres !» se dit-il en sortant prudemment. Il pleuvait toujours, bien entendu. C'étaient les nappes de bruine qui survenaient dans le sillage d'une tempête majeure, les accalmies. Quelques sprènes de pluie reposaient dans les flaques, pareilles à des bougies bleues, et quelques sprènes du vent dansaient dans les bourrasques. La pluie était froide, et il pataugeait dans des flaques qui trempaient ses pieds chaussés de sandales, les glaçant jusqu'à l'os. Il détestait être mouillé. D'un autre côté, il détestait beaucoup de choses. Pendant quelque temps, la vie avait semblé vouloir s'améliorer, mais plus maintenant. Comment les choses ont-elles si mal tourné si vite ? Se demanda-t-il en s'étreignant, marchant d'un pas lent tout en regardant ses pieds. Quelques soldats avaient quitté leur baraque et se tenaient non loin de là, vêtus de capes de pluie, pour le regarder, sans doute pour s'assurer que personne ne soit sorti furtivement pour aller détacher Kaladine. Toutefois, personne ne tenta d'arrêter Rock. La tempête était passée. Il contourna le bâtiment en courant. D'autres hommes de pont quittèrent la baraque tandis que Teft le suivait. Foudre de manche-corne, pareil à un gros chul mal dégrossi. Il y croyait vraiment. Il croyait qu'ils allaient trouver ce crétin de jeune chef de pont vivant. Il imaginait sans doute qu'il le découvrirait en train de déguster une tasse de thé, de se prélasser à l'ombre avec le père des tempêtes en personne. « Et toi, tu n'y crois pas ?» se demanda Teft sans lever les yeux. « Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu le suis ? Mais si tu croyais vraiment, tu regarderais. Tu ne fixerais pas tes pieds. Tu lèverais les yeux pour voir. » Un homme pouvait-il à la fois croire et ne pas croire ? Teft s'arrêta près de Rock et, s'armant de courage, leva les yeux vers le mur de la baraque. Là, il trouva ce qu'il avait attendu et redouté. Le cadavre ressemblait à un morceau de viande d'abattoir, écorché et vidé de son sang. Était-ce vraiment un homme ? La peau de Kaladin était entaillée à une centaine d'emplacements, et le sang qui gouttait se mêlait à l'eau de pluie qui coulait le long du bâtiment. Le corps du garçon pendait toujours par les chevilles. Sa chemise avait été arrachée. Son pantalon d'homme de pont était en lambeaux. Détail ironique, son visage était à présent plus propre que lorsqu'il l'avait laissé, nettoyé par la tempête. Teft avait vu assez de morts sur le champ de bataille pour comprendre ce qu'il voyait. « Pauvre garçon !» se dit-il en secouant la tête tandis que le reste du pont 4, silencieux, horrifié, se rassemblait autour de Rock et de lui. Vous avez presque réussi à me faire croire en vous. » Les yeux de Kaladin s'ouvrirent brusquement. Les hommes de pont rassemblés hoquetèrent. Plusieurs jurèrent et tombèrent à terre, soulevant des gerbes d'eau de pluie. Kaladin prit une inspiration irrégulière et sifflante, les yeux regardant fixement devant lui, intense et aveugle. Il expira, soufflant sur ses lèvres des particules de salive sanglante. Sa main, qui pendait en dessous de lui, s'ouvrit d'elle-même. Quelque chose tomba sur les pierres, la sphère que Teft lui avait donnée. Elle tomba dans une flaque et s'y arrêta. Elle était éteinte, dépourvue de toute fulgiflamme. « Nom de Kelek, que se passe-t-il ? » se demanda Teft en s'agenouillant. Quand on laissait une sphère à l'extérieur lors d'une tempête, elle recueillait de la fulgiflamme. Celle-ci, que Kaladin avait tenue dans sa main, aurait dû être pleinement infusée. Qu'est-ce qui était allé de travers ? « Umala Kaiki ! » hurla Rock, doigt tendu. « Kama mohorai namavau ! » Il s'arrêta en s'apercevant qu'il ne parlait pas la bonne langue. « Quelqu'un pour m'aider à le faire descendre ! Il est toujours en vie ! Nous avons besoin d'échelles et couteaux, vite !» Les hommes de pont se précipitèrent. Les soldats approchèrent en marmonnant, mais les hommes de pont ne s'arrêtèrent pas pour autant. Sadeas lui-même avait déclaré que le père des tempêtes choisirait le sort de Kaladin. Tout le monde savait que ça signifiait la mort, sauf... Teft se redressa bien droit, tenant la sphère éteinte. « Une sphère vide après un orage, » se dit-il. « Et un homme toujours en vie alors qu'il devrait être mort. » Deux choses impossibles. Ensemble, elles témoignaient de quelque chose qui aurait dû l'être encore davantage. « Où est cette échelle ?» se surprit-il à crier. « Vite, vite ! Il faut qu'on pense ses blessures, que quelqu'un aille chercher ce baume qu'il met toujours sur les blessures !» Après un autre coup d'œil furtif à Kaladin, il ajouta beaucoup plus bas « Et vous avez intérêt à survivre, gamin, parce que je veux des réponses !»